Le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia. En Libye, les forces alliées au gouvernement ont repoussé ce matin des combattants rivaux engagés dans une offensive pour prendre la capitale Tripoli. Des affrontements susceptibles de replonger donc le pays dans un nouveau conflit.
Dans votre journal également, Abdelaziz Bouteflika, la partie, les Algériens n'entendent pas pour autant se satisfaire de ce qu'ils jugent comme une demi-victoire.
Oui, ils manifesteront donc à nouveau en masse ce vendredi pour la 7e semaine consécutive afin d'empêcher les anciens fidèles du président déchu de gérer la transition.
Et une nouvelle date, de plus à l'agenda décidément flottant du Brexit.
Ce matin, dans une lettre adressée au président du Conseil européen Donald Tusk, la première ministre britannique Theresa May a demandé un report de la sortie de son pays jusqu'au 30 juin. De son côté, le même Donald Tusk aurait lui suggéré un report flexible allant jusqu'à 12 mois. Le président Emmanuel Macron a dévoilé aujourd'hui la composition du groupe de chercheurs chargé de faire la lumière sur l'engagement de la France au Rwanda durant la période du génocide, une commission d'ores et déjà très critiquée dans le monde universitaire. Enfin, à l'occasion des 25 ans de SIDAction, invité de la rédaction dans une vingtaine de minutes, Françoise Barré-Sinoussi, prix Nobel de médecine et co-découvreuse du virus du sida. Et puis à 12h56, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Maintien de l'ordre ou criminalisation de la contestation à la veille d'un 21e samedi de mobilisation pour les Gilets jaunes. Rendez-vous dans une vingtaine de minutes, vous le disiez, avec la politologue Vanessa Codaccioni, auteure de Répression, l'État face aux contestations politiques. Avec notre partenaire du magazine Society, Joachim Barbier nous rejoindra.
Merci et à tout à l'heure. Le maréchal Haftar vient-il de déclarer la guerre à Tripoli? Hier, l'homme fort de l'Est libyen a ordonné à ses forces d'avancer en direction de la capitale, siège du gouvernement d'Union nationale, reconnu par la communauté internationale. Des pick-up armés de canons anti-aériens et des hommes en uniforme ont pris position sur un barrage de sécurité à une trentaine de kilomètres de Tripoli. De son côté, le gouvernement du Premier ministre a ordonné à ses forces de se mobiliser et a approuvé le recours éventuel à des frappes aériennes pour contrer toute offensive. De quoi susciter, quoi qu'il en soit, de fortes craintes donc d'un possible embrasement militaire. Précisons par ailleurs que cette montée soudaine des tensions intervient en réalité au deuxième jour de la visite dans le pays du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, lequel espère encore tracer une feuille de route pour de nouvelles élections. Faut-il en déduire que ce coup de force surprise du maréchal septuagénaire s'apparente au fond à un pari, l'ultime occasion pour lui d'émerger en quelque sorte comme le prochain homme fort de la Libye? Les précisions de notre correspondante dans la région, Maureen Mercier.
À Tripoli, les habitants attendent, craignent de voir débarquer les troupes du général et de replonger dans une guerre totale. La rumeur planait depuis des mois. Le général Haftar s'est finalement décidé à avancer en direction de la partie rivale, l'ouest de la Libye, à 10 jours de la conférence nationale censée réunir toutes les parties libyennes et jeter enfin les bases de la reconstruction de l'État. Le général Haftar cherche-t-il à s'emparer du pouvoir par la force sur l'ensemble du territoire? Est-ce qu'à force de soutenir le gouvernement d'Union nationale de Tripoli, l'ONU n'a-t-elle pas créer chez le général une volonté de revanche? La communauté internationale ne risque-t-elle pas de créer un Sisi libyen à force de ne pas inclure suffisamment le général? La réponse de Hassan Salamé, chef de la mission des Nations Unies pour la Libye.
Je n'ai aucune envie de créer le Sisi. Ce n'est pas ça le sujet. D'abord, M. Haftar bouge depuis qu'il existe sur le terrain, depuis 2011, depuis son retour des États-Unis. Ce n'est pas moi qui le fais bouger aujourd'hui. Il a tenté d'avoir des positions dans le gouvernement. Il a tenté en 2014, en février 2014, un coup d'État, il a tenté. Donc ne me faites pas porter le poids des mouvements de X ou d'Y. Ce que nous faisons surtout, c'est lorsque nous avons des informations documentées qu'il y a un mouvement de troupes ou qu'il y a l'arrivée de nouveaux arsenaux à droite ou à gauche et qu'on prend directement contact avec ces personnes et qu'on essaye de les calmer et qu'on essaye d'éviter le pire. Et ça, l'histoire n'éclairera pas l'essentiel de notre travail, qui est un travail de prévention de conflits.
France, Italie, États-Unis, Émirats arabes unis, ONU en tête, tous appellent à une désescalade immédiate. Sur le terrain, ce sont les brigades de Misrata, une ville située à l'est de Tripoli, suffisamment puissante, qui se donneront pour mission de lutter contre les avancées du général, parmi lesquelles ce jeune homme, 23 ans, par ailleurs étudiant. Je ne veux pas de nouvelles guerres, mais si Haftar nous attaque, je serai bien obligé de prendre les armes.
Alors aujourd'hui, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir en urgence à la demande du Royaume-Uni pour discuter de la situation libyenne. L'occasion également de rappeler que le jeu politique libyen ne saurait se réduire à un simple duel entre deux hommes, le chef du gouvernement Al-Sarraj d'un côté et le maréchal Haftar de l'autre. Le conflit libyen est en réalité un enchevêtrement très complexe d'intérêts avec un jeu d'alliances parfois contradictoires et qui viennent elles-mêmes nourrir les divisions locales. Sur ces déchirements internes mêlés d'ingérences étrangères, Nabila Hamel a sollicité Jalel Archaoui, chercheur à l'Institut de recherche de La Haye.
C'est très complexe. Il y a plus d'une douzaine d'États qui interfèrent auprès des différentes factions en Libye. Donc la simple complexité fait qu'aucun État ne peut prétendre contrôler et maîtriser à 100% une faction donnée. Il y a souvent un cas de figure qui est assez étrange où une faction est soutenue par un État pendant plusieurs années et le jour J, eh bien, ce groupe armé va faire exactement le contraire de ce qui est dans l'intérêt de son parrain. Pourquoi ? Parce que les options sont trop nombreuses. Il y a trop de combinaisons possibles et trop de richesses dans ce pays. Donc, il faut pas imaginer non plus que la prise de décision des Libyens, leur initiative ne compte pas. Au contraire, elle a toujours une importance première. Et pourtant, l'interférence, l'ingérence des États extérieurs, eh bien, a une importance aussi, parce que c'est ce qui va inciter les différentes factions libyennes à refuser le compromis, mais à refuser le dialogue politique. C'est parce qu'elles savent qu'elles peuvent retourner auprès de leurs mécènes et obtenir un peu plus d'équipement, un peu plus d'armes, un peu plus de bénédictions idéologiques.
Aujourd'hui, ce sont les troupes du maréchal Haftar qui sont à la manœuvre. Est-ce que l'on sait par qui il est soutenu ?
Les parrains les plus indéfectibles, les plus sérieux derrière le maréchal Haftar, c'est les Émirats Unis, l'Arabie Saoudite, la France et l'Égypte. Mais ce qui est important aussi, c'est la passivité de la part du président Trump pour pouvoir entreprendre des opérations comme celle d'hier. Et justement, Trump avait commencé un petit peu sur la continuité d'Obama, c'est-à-dire un grand scepticisme par rapport au maréchal Haftar. Ça, c'est un petit peu la nouvelle attitude des États-Unis d'Amérique depuis 3-4 mois.
On a Jalel Archaoui, chercheur à l'Institut de recherche de La Haye. Il répondait à Nabila Hamel. Alors, le spectre d'une nouvelle guerre civile en Libye, dans un pays divisé entre un gouvernement d'union nationale d'un côté et une autorité rivale contrôlée par l'armée de l'autre, un pays en proie surtout au chaos depuis le printemps arabe et la chute de Muammar Kadhafi en 2011, résonne évidemment d'une manière toute particulière avec une autre actualité, la démission cette semaine chez le voisin algérien du président Bouteflika sous la double pression à la fois d'une insurrection populaire mais aussi du poids écrasant de l'armée et en particulier d'un homme, le général Gaït Salah. C'est lui en quelque sorte qui donne à présent le tempo à cette contestation inédite du pouvoir, en l'occurrence, et bien que membre du premier cercle du chef de l'État déchu, il a pris soin de se mettre au diapason avec les revendications exprimées lors des manifestations en appelant à un changement radical du régime et au respect de la volonté du peuple. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs la rue de se montrer encore méfiante, comme devrait d'ailleurs à nouveau le démontrer la journée d'aujourd'hui avec un 7e vendredi de mobilisation. Et puis, cette déstabilisation en cours chez le voisin libyen pourrait également avoir un impact sur la suite des événements en Algérie. Pourquoi ? Parce que si l'armée était appelée à renforcer le contrôle de ses frontières, eh bien elle serait nécessairement moins disponible pour gérer la transition politique à l'œuvre. C'est du moins l'analyse défendue ce matin sur notre antenne par l'historien Benjamin Stora.
La Libye, d'abord, c'est très important pour l'Algérie parce que c'est une immense frontière avec l'Algérie, des centaines et des centaines de kilomètres. Et là, ça interfère sur la situation algérienne parce que l'armée algérienne est en première ligne sur la question des frontières avec la Libye. Et donc, si la situation ne va pas très bien en Libye, ça affaiblit aussi, disons, les possibilités d'action de l'armée algérienne. Donc on sait que cette armée joue un très grand rôle dans la transition politique aujourd'hui en Algérie. Donc les événements libyens vont jouer un rôle important.
En Afghanistan, une vaste offensive débutée mercredi dernier a été lancée par des centaines de talibans, offensive lors de laquelle 36 membres des forces de sécurité afghanes ont trouvé la mort. Les insurgés auraient par ailleurs pris le contrôle de plusieurs postes de sécurité. Voilà 2 mois maintenant que les attaques se multiplient dans cette région de l'ouest du pays qui pourrait tomber aux mains des talibans si aucun soutien n'est apporté aux forces gouvernementales. Donald Trump se veut résolument optimiste quant à la conclusion prochaine d'un accord avec la Chine, accord qui, le cas échéant, mettrait fin à 9 mois de guerre commerciale. Hier, le président américain a déclaré devant la presse que plusieurs questions délicates avaient été résolues. En revanche, le chef de la Maison-Blanche ne s'est pas risqué à avancer de calendrier précis. que tous ceux qui ne comprendraient plus rien au palinodi et autres tergiversations britanniques sur le Brexit, ne désespérez pas si l'on vous demande à nouveau ce matin de ressortir votre calendrier. En théorie et selon le dernier agenda fixé par les Européens, le Brexit doit intervenir le 12 avril prochain, soit dans une semaine, puisque la Chambre des communes, malgré 3 tentatives, n'a toujours pas réussi à dégager une majorité sur l'accord de retrait négocié par Theresa May avec Bruxelles. Sauf que, dans une lettre adressée aujourd'hui au président du Conseil européen, Donald Tusk, on apprend que Theresa May a demandé de reporter la date du Brexit au 30 juin et que le cas échéant, elle prendra ses dispositions pour organiser, tenez-vous bien, des élections européennes. Angélique Boin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Bruxelles. Alors c'est vrai qu'il est de plus en plus difficile de s'y retrouver, tant sur les dates avancées sur une supposée sortie du Royaume-Uni de l'UE que sur la logique qui justifierait de tels reports successifs. Seule certitude, Angélique, a priori, pour accepter un éventuel nouveau report, donc les 27 ont posé comme condition la présentation par le Royaume-Uni d'un plan crédible, plan qui fait encore défaut.
En effet, et pour que l'on s'y retrouve, rappelons que lors du dernier Conseil européen, les 27 avaient mis plusieurs conditions pour accorder ce report du Brexit. D'abord que Londres s'engage à organiser des élections européennes, l'une d'elles est donc remplie. Dans la lettre envoyée ce matin, Theresa May précise qu'elle va s'y préparer, quitte, si on comprend bien, à les annuler d'ici le 23 juin, premier jour de vote dans l'Union, si jamais elle avait trouvé un accord avec les 27. Mais cela ne suffira pas, vous venez de le dire, pour accorder à Theresa May le report qu'elle réclame à nouveau ce matin. Il faut aussi qu'elle présente un plan alternatif crédible, ou bien qu'elle finisse par réussir à faire voter cet accord de retrait. À ce stade, même s'il y a en ce moment de nouvelles discussions intenses à Londres, eh bien pour les 27, factuellement, il n'y a rien de nouveau. Il est donc prématuré d'évoquer une extension, confirme d'ailleurs à l'instant l'Élysée, faute de plan clair. De sources européennes, on confirme néanmoins ce matin que l'on étudie sérieusement l'hypothèse de ce report sur 12 mois. Cette option est bien sur la table. Donald Tusk, son président, va à suggérer aux 27. Ce dernier veut tout faire pour éviter une sortie sans accord vendredi prochain, 12 avril à minuit, il le dit régulièrement. La chancelière Angela Merkel est sur la même ligne. Quand la volonté est là, on y arrive, a-t-elle lancé hier en disant espérer que les pourparlers actuels entre conservateurs et travaillistes britanniques aboutissent. Du côté de Paris, on veut aussi éviter une sortie désordonnée, mais pas à n'importe quel prix. Et on sent de ce côté-là plus nettement l'envie de tourner la page pour éviter que les Britanniques ne gardent infiniment un pied dedans, un pied dehors de l'Union. Nul doute en tout cas que les échanges entre les 27 seront denses la semaine prochaine au Conseil européen d'urgence sur la définition de ce plan alternatif crédible nécessaire pour accorder un nouveau report.
Merci Angélique Boin en direct de Bruxelles. Deux jours avant la commémoration du 25e anniversaire du génocide des Tutsis au Rwanda, le président Emmanuel Macron a annoncé, comme prévu ce matin, la création d'un comité d'historiens qui auront accès à toutes les archives françaises pour faire la lumière sur le rôle donc joué par les autorités françaises durant la période 1990-94. Sauf que cette commission, qui rassemblera 8 chercheurs et historiens sous l'égide du professeur Vincent Duclerc, est d'ores et déjà très critiquée, et notamment dans le monde universitaire. Les explications de Sandrine Etoa-Andeg.
La création de ce groupe de chercheurs, Emmanuel Macron s'y était engagé en mai 2018 lors d'une visite officielle du président rwandais Paul Kagame à Paris. Qui en fera partie? Cette question crée des remous chez les historiens. Deux spécialistes du génocide des Tutsis ont fait savoir qu'ils en avaient été écartés. Certains chercheurs s'interrogent donc sur le degré d'autonomie de cette commission placée sous la houlette de l'État. Ils craignent que ses membres aient un accès limité aux archives françaises de l'Élysée et de l'armée notamment. Ils rappellent qu'il y a toujours des zones d'ombre sur le rôle de la France avant, pendant et après ce massacre qui a fait au moins 800 000 morts entre avril et juillet 1994. Cette commission aura un accès complet aux documents et travaillera en toute indépendance, assure son président, l'historien Vincent Duclerc. La volonté d'Emmanuel Macron, dit-il, c'est que la France regarde bien en face et de très près ce qu'a été son action au Rwanda. Il ajoute que la commission sera intraitable sur les faits et la recherche de la vérité.
Ils étaient donc 12 candidats, dont beaucoup de visages méconnus du grand public, à débattre hier soir à la télévision dans la perspective des élections européennes du 26 mai. Un débat à la fois riche et discordant sur des sujets aussi divers que techniques, l'immigration, la gouvernance, la fiscalité, l'écologie, des échanges donnant lieu à de très nombreux épisodes cacophoniques ponctués par quelques passes d'armes. Rosalie Lafarge, bonjour.
Bonjour.
Alors d'abord, prévu à 9, ce débat s'est élargi sous la pression des têtes de liste qui n'avaient pas été invitées, qui pour certains d'entre eux ont même dû saisir la justice pour être présents, de sorte que ces échanges à 12 au final auront surtout mis en lumière des guerres fratricides et en particulier à gauche, puisque la quasi-totalité des formations politiques ont choisi de faire cavalier seul, en dépit, Rosalie, d'un discours sensiblement identique.
Oui, ils n'ont pas réussi à s'entendre avant. On se demande bien pourquoi, manifestement, pas pour une question d'idées. Sur le Brexit, par exemple, Yannick Jadot chez Les Verts et Raphaël Glucksmann pour le PS disent la même chose.
Cette Europe dont est sorti un grand peuple, il faut la transformer. Ceux qui sortent de l'Union européenne affaiblissent leur nation, justement.
Sur la question migratoire, cette gauche fait même bloc derrière le communiste Yann Brossa.
Quand je vous entends, Madame Loiseau, expliquer que vous êtes fière d'avoir divisé par 10 le nombre de réfugiés que la France a accueillis, mais
pas
je vous le dis sincèrement,
Monsieur Brossa,
je vous le dis sincèrement, de migrants, et alors, vous devriez regarder vos pompes.
Mais c'est avant tout sur l'écologie qu'il se retrouve, de l'insoumise Manon Aubry à l'écologiste Yannick Jadot, en passant par Benoît Hamon de Génération.
C'est simple, on ne prend pas plus à la Terre que ce qu'elle peut reconstituer elle-même. Et ça doit devenir la boussole de toutes les politiques européennes.
L'engagement qu'on doit prendre, et qui doit être très clair, c'est que la dette écologique prime sur la dette financière.
Et ça fait 10 ans qu'on porte ce projet, qui est l'idée de transformer l'économie et l'ensemble des institutions européennes autour de l'écologie.
Ce qui amène Raphaël Glucksmann à un constat amer, mais probablement sincère.
Moi, j'ai eu du mal à rentrer dans ce débat, parce qu'en fait, je regardais et je me disais, mais si la situation est si grave... Pourquoi Benoît, pourquoi Yannick, on n'est pas en train de se battre ensemble?
L'un des enseignements de la soirée, c'est sans doute que débattre à 12, c'est trop. Et peut-être surtout quand il y en a 3 pour dire la même chose.
Merci Rosalie Lafarge. Quelle est donc l'origine de ce mal qui touche les enfants du secteur de Sainte-Pazanne, près de Nantes, causant le décès de 3 d'entre eux depuis 2015? La question était sur toutes les lèvres hier soir lors d'une réunion publique avec les autorités de santé. Une enquête épidémiologique va être menée pour tenter de déterminer une éventuelle cause commune, donc expliquant le regroupement de ces cas de cancer recensés ces 3 dernières années chez 12 enfants et adolescents. L'invité de la rédaction aujourd'hui, Françoise Barré-Sinoussi, prix Nobel de médecine et co-découvreuse du virus du sida. Bonjour madame.
Bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger, Tara Schlegel. Bonjour Tara.
Bonjour.
Alors à partir d'aujourd'hui débutent 3 jours de mobilisation et de sensibilisation sur les enjeux actuels de la lutte contre le virus du sida. Précisons également que cette année 2019 marque les 25 ans de SIDAction. Et pour sa nouvelle campagne d'appel aux dons, SIDAction pointe notamment du doigt l'oubli, parce que nous n'en parlons pas ou trop peu. On pourrait croire que le sida a disparu, or ça n'est évidemment pas le cas. 6000 personnes découvrent leur séropositivité chaque année en France. A-t-on, selon vous, Madame Barré-Sinoussi, trop banalisé le sida?
Trop banalisé, je dirais, il s'est banalisé quelque part tout seul. Mais il est vrai que aujourd'hui, dans la population, on parle beaucoup moins du VIH. Et on voit bien aussi qu'il y a beaucoup moins de campagnes d'information, de sensibilisation sur cette infection. C'est un fait aujourd'hui. Alors pourquoi? Probablement lié au fait qu'on a un traitement qui permet aux personnes de vivre avec le VIH. On n'est pas dans la situation des années 80-90 aujourd'hui. On peut effectivement proposer aux personnes qui sont infectées un traitement, et plus on leur propose précocement, plus finalement ils auront une qualité de vie et une espérance de vie identique à des personnes non infectées. Donc la situation est à la fois différente des années 80-90, mais à la fois il faut quand même reprendre les campagnes d'information, de sensibilisation. C'est ce qu'indiquent les chiffres actuels.
Mais madame Barré-Sinoussi, c'est quand même un peu compliqué aussi de faire passer ce message, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est sous traitement antirétroviral, on peut vivre presque normalement. Et c'est vrai que la conséquence est qu'on a peut-être moins tendance, malgré tout, à se protéger et à faire passer un message de prévention qui fait peur, finalement. Comment est-ce qu'on concilie les deux ?
Je pense que c'est facile à concilier les deux. Vous savez, il suffit de faire comprendre à tout le monde qu'être sous traitement à vie, puisque c'est un traitement à vie, c'est pas si simple que ça, de ne pas oublier de prendre ses médicaments un jour ou l'autre. D'autre part, sur le long terme, on sait qu'il y a un certain nombre de personnes, pas tous heureusement, qui développent ce qu'on appelle des maladies du vieillissement précoce, des cancers, des troubles métaboliques, des maladies cardiovasculaires, des diabètes. Donc, je veux dire, il y a un certain nombre d'arguments qui peut faire comprendre à la population, aux jeunes, qu'il faut quand même mieux ne pas être infecté.
C'est tout sauf anodin, bien sûr.
Exactement.
Alors, est-ce que le principal défi en France est celui du dépistage, d'après vous? Il y a quand même encore, on dit, à peu près 24 000 personnes qui vivent avec le virus du VIH en France et qui s'ignorent malades.
Oui, les défis d'aujourd'hui, c'est forcément prévention et dépistage, et les deux vont ensemble, et traitement. Tout ça va ensemble. Moi, j'arrive pas à faire une séparation. Le dépistage est un problème, puisqu'on a 25 000 personnes à peu près qui ne savent pas aujourd'hui en France qui sont porteurs du virus et qui continuent à transmettre, bien sûr, aux autres. Ça, c'est un gros, gros problème. Alors, le dépistage, bien sûr, il y a aussi à sensibiliser tout le monde pour aller se faire dépister.
Il y a aussi forcément la question de l'accès aux antirétroviraux. En France, est relativement simple. Dans plein de pays, ça se pose de façon beaucoup plus compliquée. Est-ce vrai qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de résistance au traitement antirétroviraux, à la trithérapie qui marche bien, en fait?
Alors, pas encore en France, mais dans certains pays, oui, en Afrique, en Asie du Sud-Est, en 5 ans, on a vu chez les personnes nouvellement infectées, la présence de formes résistantes au traitement. On était passé de moins de 5% à 15% de formes résistantes au traitement chez ces personnes nouvellement infectées. Ça fait peur parce que, bien sûr, elles risquent de le transmettre aux autres.
Ça veut dire que le virus qu'elles récupèrent, finalement, ou qu'elles attrapent, est lui-même déjà totalement résistant, on ne peut pas
le soigner. Exactement. Pas le soigner, non, je ne dirais pas ça, puisqu'on a des combinaisons thérapeutiques qui ne sont pas les premières combinaisons thérapeutiques que l'on peut utiliser dans ce cas-là. Mais sur le long terme, moyen terme, long terme, on n'a pas non plus un panel si large que ça de combinaisons thérapeutiques pour traiter les personnes s'ils ont des formes résistantes. Donc, il y a des craintes.
Le SIDAction finance évidemment les associations qui sont auprès des malades, mais aussi la recherche en tant que telle, la recherche fondamentale. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous qui êtes chercheuse, en un mot, où on en est justement des nouveaux traitements? Est-ce qu'on parle de monothérapie au lieu de trithérapie? Est-ce que ça changerait quelque chose? Est-ce qu'on parle d'un vaccin?
Il y a des résultats intéressants en ce qui concerne le traitement avec les bithérapies. Également avec des traitements où les patients les prendraient pendant 4 jours et puis un arrêt pendant le week-end, par exemple. C'est un allègement des traitements qui est intéressant. Mais il faut regarder aussi plus loin sur le futur, où l'espoir et ce que souhaite la majorité des patients, c'est d'avoir un traitement qu'ils pourraient arrêter.
C'est
ce qu'ils
demandent.
Les chercheurs, voilà. Et ça, les chercheurs travaillent dessus aujourd'hui. Et puis, la deuxième grande priorité, c'est bien sûr le vaccin, pour lequel les chercheurs continuent à travailler aujourd'hui, avec des résultats intéressants ces dernières années sur l'identification d'anticorps extrêmement puissants qui, dans des modèles, semblent protégés contre l'infection et qui pourraient d'ailleurs être utilisés aussi en thérapeutique du futur. Et maintenant, la grande question, c'est avoir un vaccin qui va être capable d'induire, de produire ce type d'anticorps dans le corps humain.
Il y a des essais cliniques qui sont en cours sur des vaccins et qui montrent des résultats.
Il y a deux essais d'efficacité en cours aujourd'hui sur lesquels on aura les résultats en 2020-2021.
Donc un peu de patience avant de pouvoir dire si ça marche.
C'est pas avec les candidats vaccins que je viens de mentionner. C'est avec des anciens candidats vaccins. Donc il faudra attendre plus longtemps pour les vaccins induisant des anticorps.
D'où l'absolue nécessité de se protéger en attendant.
Exactement.
Puisqu'on n'a pas encore... aujourd'hui, par exemple, il y a des médicaments comme la PrEP qui permettent, si on les prend avant un rapport sexuel non protégé, de ne pas être contaminé. Et ce n'est pas si simple que ça pour les pouvoirs publics de faire la promotion de ce type de traitement. Vous en pensez quoi?
Ah, moi, je suis une pro-PrEP, comme on dit. Je pense que la PrEP est un outil supplémentaire. Quand on fait la promotion de la PrEP, ça ne veut pas dire qu'on dit n'utilisez plus le préservatif. Que les choses soient claires. Première prévention, le préservatif. Mais on sait très bien qu'il y a un pourcentage des personnes qui prennent des risques, qui n'utilisent pas le préservatif. Et donc, la PrEP est un outil absolument formidable pour ce type de personnes qui prennent des risques. risques, car ça nous permet de se protéger et on sait que c'est totalement efficace. Et là, en France, malgré notre avance, je veux dire, sur la prise de décision politique de la mettre à disposition des personnes à leur demande et de façon gratuite, on est quand même dans les rares pays où c'est gratuit, eh bien, on doit faire mieux dans l'accès à la PrEP et en particulier que les médecins généralistes eux-mêmes soient bien informés que cette PrEP existe.
Merci Françoise Barré-Sinoussi, prix Nobel de médecine, je le rappelle, et co-découvreuse du virus du sida, d'avoir répondu à notre invitation. Et merci également à Tara Schlegel. Et puis on rappellera que pour faire un don à SIDAction, vous pouvez composer le 110, numéro d'appel gratuit, ou envoyer le mot don par SMS au 92 110. Mais également vous rendre sur le site www.sidaction.org ou bien encore envoyer vos dons par courrier à SIDAction, 228 rue du Faubourg Saint-Martin, 75 010 Paris. On termine avec un mot rapide de météo. Le temps sera plus calme cet après-midi avec du soleil sur le Grand Est et un dégradé nuageux sur le reste du pays. Quant aux températures, elles varieront entre 11 et 19 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue et à 18h, vous avez rendez-vous avec Benoît Bouscarel pour le prochain journal de la rédaction.